Bonjour Jean-Christophe Lagarde.
Bonjour.
Député centriste de Seine-Saint-Denis, président de l'UDI. On va commencer par votre soutien au bras de fer que vient d'engager François Bayrou pour qu'Emmanuel Macron respecte sa promesse de proportionnel pour les législatives. Alors vous n'êtes pas le seul parti que ça intéresse à l'UDI. Il y a aussi la France Insoumise, le Rassemblement National, Europe Écologie Les Verts. Avec quels arguments, Jean-Christophe Lagarde, comptez-vous convaincre l'exécutif et le chef de l'État en particulier ?
Écoutez, pour nous, l'UDI, c'est pas une conviction nouvelle. On a toujours défendu l'idée que l'Assemblée nationale, c'est une forme de détendeur de la démocratie. C'est l'endroit où le débat doit se construire. Et quand des courants d'opinion politique importants ne sont pas présents dans l'Assemblée nationale, c'est dans la rue que le débat se fait. Et à ce moment-là, ce débat, en réalité, il se fait sur le rapport de force, parfois même sur la violence, mais il ne se fait pas là où il doit se faire, au cœur de la démocratie, dans l'hémicycle, dans l'Assemblée nationale.
Il se fait tout de même, le débat, mais vous le voulez plus fort pour les formations de moindre importance.
Très honnêtement, il ne se fait pas. Il y a des idées...
Vous êtes représenté à l'UDI, à l'Assemblée nationale.
Mais je ne suis pas en train de parler de nous. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que 4-5 écologistes en France pour représenter les Français qui pensent que l'écologie et l'environnement, c'est important? Je pense qu'il y a d'ailleurs, notamment à l'UDI, des gens qui défendent aussi l'environnement. Mais il y a un mouvement qui existe. Pourquoi est-ce qu'il est absent de l'Assemblée nationale? Je combats absolument le Front National. Mais je ne peux pas ne pas tenir compte. Et d'ailleurs, je pense qu'on les combat plus facilement dans l'hémicycle qu'à l'extérieur. À l'extérieur, c'est facile. Ils sont tout le temps dans le slogan. Ils sont tout le temps dans la caricature. Quand vous êtes en train de discuter de choses concrètes dans l'hémicycle, ils peuvent plus faire le cinéma médiatique, si j'ose dire, qui est leur. On l'avait vu d'ailleurs en Allemagne il y a quelques années. Ils étaient rentrés au Parlement. Et ils sont sortis très vite du Parlement, parce que quand on les met face aux réalités, ils sont plus dans le fantasme. En fait, les exclure du jeu politique par cette règle électorale, c'est leur faire un cadeau. Et moi, je veux pas leur faire de cadeau.
Sauf
que
surtout, cette idée.
Et puis surtout, on peut pas dire aux Français. Moi, je crois qu'il y a deux réformes importantes au plan électoral. La première, c'est d'accepter, que le vote blanc soit reconnu comme un vote exprimé. Quelqu'un qui vient jusqu'au bureau de vote et qui se donne cette peine et qui dit aucun des candidats ne me convient, on doit tenir compte de sa voix. Ça n'empêche pas qu'il y aura un résultat, qu'il y aura un vainqueur. Sa voix n'empêchera pas un vainqueur, mais on mesurera quelque chose que les Français ont envie de voir mesurer. Et la deuxième chose, c'est effectivement, comme pour les élections régionales, comme pour les élections municipales, comme pour les élections européennes, finalement, il n'y a que deux élections où la proportionnelle n'existe pas, les élections départementales et les élections législatives. Les élections législatives sont quand même d'une importance majeure. C'est là où les confrontations d'idées sont nécessaires. Un, pour éclairer les Français, et parfois, quand les députés sont raisonnables, pour détendre, entre guillemets, certains sujets qui sont compliqués.
Sauf que cette idée de proportionnel ne semble pas séduire, pour l'instant, l'exécutif. D'ailleurs, quel retour avez-vous de votre proposition?
Je viens d'envoyer le courrier hier ou avant-hier, donc je n'attends pas de réponse encore, mais je comprends pas ça. Séduire, monsieur Macron n'a pas besoin d'être séduit, il devait bien être convaincu, sinon pourquoi il l'a promis aux Français? Non seulement il
parce qu'il ne veut pas encombrer le calendrier parlementaire. D'ailleurs, il fait dire plutôt que si la proportionnelle devait voir le jour, ce serait plutôt à votre initiative, les parlementaires déposer une proposition de loi, parce que venant de l'exécutif, ça va traîner. Ça fait pas partie des dossiers prioritaires.
Alors attendez, on va dire les choses simplement. D'abord, encombrement parlementaire, faut pas se foutre du monde. La réalité, c'est que ça nous prendrait 2 ou 3 jours à l'Assemblée nationale et au Sénat, parce que ça va très vite. C'est vraiment une loi très simple. D'ailleurs, elle a déjà existé, c'était en 1986. Deuxième chose, à l'initiative d'un groupe. Alors, pour ce qui concerne le groupe UDI, on a une fois par an l'occasion de proposer 2 ou 3 lois.
Sauf que ça fait consensus.
Mais c'est très simple. Le MoDem, je crois, a bientôt une niche parlementaire. Il entend le faire. La seule question qu'il y aura à ce moment-là, c'est est-ce que M. Macron donne à ses députés La République En Marche l'instruction de respecter sa promesse électorale? Ou est-ce qu'il leur dit de ne pas le faire? Parce que on connaît bien le groupe La République En Marche, ils sont aux ordres. Et donc si l'Élysée,
pas toujours.
Ceux qui sont pas aux ordres, ils sont partis. Ouais. S'il leur dit oui, respectez ma promesse électorale, eh bien il y aura effectivement une modification du mode d'élection qui permette une représentation plus juste des opinions françaises, c'est-à-dire mieux respecter les Français quand même, c'est ça ce que ça veut dire. Il leur dit de ne pas le faire, il aura trahi cette promesse électorale et je le regretterai.
Et votre fenêtre de tir, ça va jusqu'au mois de juin, sinon après ce sera trop tard pour les prochaines législatives.
Bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs que on dit qu'il pourrait le faire aussi par référendum, mais par référendum, il faudrait le faire en même temps par exemple le référendum sur le climat, ça servirait au moins à quelque chose, et il faut le faire en tout cas pour 2022, parce que j'ai entendu une idée qui traîne, qui est de dire, il pourrait le faire, mais ça s'appliquerait qu'en 2027. Enfin, quand on est au pouvoir, c'est pas pour décider pour ceux qui suivront. D'ailleurs, si c'était le cas et s'il est plus président de la République la prochaine fois, la réforme, elle ne verrait pas le jour en 2027, donc c'est ridicule.
Il serait question aussi de repousser les régionales non plus en juin, et pourquoi pas après la présidentielle de 2022.
Ça, je n'y suis pas favorable, je vais vous dire pourquoi. Le Portugal vient d'élire son président. Les États-Unis, dans les conditions qu'on connaît, ont élu leur président. Autant reporter de mars, qui est la plus mauvaise période, parce qu'on est encore dans le froid, confiné, il y a plus de risques de contamination, c'était logique d'aller jusqu'à juin, c'est la meilleure période, c'est là où on a le moins de risques, vraisemblablement, de contamination. Mais on peut pas reporter indéfiniment les élections, et on peut pas confiner la démocratie. C'est très simple, personne ne veut y réfléchir. Mais si un nouveau variant, malheureusement, apparaît l'an prochain, et qu'on est dans la même situation l'an prochain. On fait quoi? On reporte les présidentielles? On reporte les législatives? Donc il faut bien qu'à un moment donné, on vote.
Dans des conditions sanitaires, évidemment.
La difficulté, elle n'est pas là. La difficulté, c'est que le jour du vote, on n'a pas de risque de contamination. Le problème, c'est la campagne. Vous ne pouvez plus faire de réunions publiques, vous n'allez pas faire du porte-à-porte, vous n'allez pas dans les bistrots, etc. Vous n'allez pas sur les marchés. Donc il faut changer la loi sur les campagnes électorales, autoriser par exemple le sponsoring sur Internet, avec un plafond, c'est-à-dire de la publicité, augmenter les plafonds de campagne pour qu'on puisse distribuer directement dans les boîtes aux lettres plutôt que d'aller à la rencontre des gens. Ce sont des modifications. Mais il va bien falloir que la démocratie s'habitue à vivre avec ça. Tout le reste de la société est contrainte à s'habituer au virus. Il faut bien aussi que la démocratie s'y habitue.
Allez, un dernier chapitre sur les élections. Vous êtes candidat à la présidentielle. Pourquoi si tôt? Et avec quelle valeur ajoutée?
Alors pardon, mais d'abord je n'ai pas déclaré de candidature à l'élection présidentielle parce que je pense que ce sujet viendra à l'automne prochain.
Vous n'excluez pas.
Mais c'est simplement que notre parti, l'UDI, comme on l'a fait aux élections européennes, a un certain nombre de projets à présenter aux Français, avec une conviction, c'est que à force de s'occuper de l'actualité, on a le nez sur le guidon et on ne regarde jamais plus loin. Je vais vous prendre un exemple. Je pense que nos institutions ne permettent plus de gouverner correctement la France. Je pense que la présidence de la République est devenue un exercice impossible dans les institutions.
C'est le quinquennat
qui est en cause ? Oui, bien sûr.
Septennat ?
Regardez ce qui s'est passé. François Mitterrand était un homme intelligent qui connaissait bien la France, il n'y est pas arrivé. Jacques Chirac était un homme intelligent qui connaissait bien la France, il n'y est pas arrivé. Nicolas Sarkozy, même chose. François Hollande, homme intelligent, connaissait bien la France, mais de mon point de vue, pas un président, parce qu'il n'aimait pas décider. Emmanuel Macron est un homme intelligent qui ne connaît pas suffisamment la France, mais qui n'y arrive pas. Vous voyez bien qu'on vient d'utiliser 5 présidents intelligents qui auraient pu être capables et que ça ne fonctionne pas. On devrait se poser le problème de nos institutions. Et la première question, c'est comment est-ce qu'on peut avoir un président de la République qui soit efficace quand il est potentiellement candidat à sa réélection? On a vu ce qui s'est passé dans ce quinquennat. Emmanuel Macron devait tout changer. Et puis, juste après les Gilets jaunes, il est rentré en campagne et il a arrêté de gouverner.
Donc c'est quoi, un septennat non renouvelable?
Je pense qu'il faut un septennat non renouvelable. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on ait une grande réforme. C'est au-delà de la décentralisation, de recentrage de l'État.
Avec le paradoxe, plus de pouvoir au Parlement.
Et alors, avec plus de pouvoir au Parlement, il y a une façon très simple de le faire. Je peux l'expliquer dans une seconde. Mais d'abord décentraliser très largement. Pourquoi? Le paradoxe français aujourd'hui, c'est que l'État est celui qui concentre tous les pouvoirs. Et le président de la République est le chef de l'État qui a le moins de contre-pouvoir dans son propre pays. C'est ce que vous dites sur le Parlement. Il veut s'occuper de tout. C'est l'homme orchestre. Mais en réalité, il s'occupe mal de tout, et la seule chose, les seules choses qu'il est le seul à pouvoir faire, comme la défense, la sécurité, la justice, l'éducation, c'est ce qu'il fait mal. Donc moi, je veux qu'il se reconcentre sur ses pouvoirs régaliens, et que sur l'autre, au lieu de chercher à être l'homme orchestre, d'organiser le tourisme au fin fond de nos territoires, etc., il devienne le chef d'orchestre. Il doit dire vers où nous allons, et laisser les musiciens, laisser les artistes jouer.
Il y a l'épidémie quand même qui a...
Elle a démontré exactement ce que je viens de dire, figurez-vous.
Oui, mais ça n'a pas aidé à avoir des visions à long terme, etc., puisqu'on ne sait pas de quoi demain sera fait.
Attendez, d'abord, c'est toujours le rôle de chef de l'État d'avoir une vision à long terme. Deuxième chose, ça, je pense que c'est l'enseignement que De Gaulle nous a donné. La deuxième chose, c'est que l'épidémie, elle a montré exactement ce que je suis en train de dire. Cette incapacité à adapter les mesures dont nous avons besoin en fonction des territoires. Pourquoi on a confiné la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine au printemps dernier, alors qu'il n'y avait pas de virus qui circulait? Regardez, il y a quand même une chose qu'on devrait accepter de regarder. En Allemagne, au printemps dernier, ils étaient, je crois, de mémoire, à 9 000 morts quand on était à 30 ou plus de 30 000 morts. Ils avaient eu une réaction plus efficace, plus ajustée, plus adaptée. Ça peut poser des difficultés, par exemple, en ce moment.
C'est une politique de lender aussi, c'est encore différent.
Eh bien, je veux qu'on régionalise la santé. Est-ce qu'il est normal que dans les Hauts-de-France, on ait une espérance de vie de 3 à 4 ans inférieure au reste du pays? L'État doit fixer l'objectif de l'égalité de l'espérance de vie et donner des moyens et ensuite laisser les acteurs faire. Ils s'en sortiront beaucoup mieux que des administrations centrales. Je le dis d'autant plus que rebelote sur la crise. Les ARS, nous on les a défendus pendant des années.
Les agences régionales de santé.
Qu'est-ce qu'on a fait avec les agences régionales de santé? On a fait des petits ministères de la santé dans leur région, c'est pas du tout le but. Il faut les raccrocher au président de région, que tout ça soit démocratisé et qu'il y ait des responsables. Parce que sinon, en réalité, ce ne sont jamais que des préfets. En réalité, ce sont des préfets qui sont dans les régions, qui font la même chose que le ministère et qui commettent du coup les mêmes erreurs.
Avec un facteur aggravant, ce sont les directions d'administration. D'ailleurs, Emmanuel Macron semble regretter de ne pas avoir suffisamment remplacé ces directions d'administration.
Je pense qu'il a raison.
Noyé dans la paperasse.
Je pense qu'il a raison de le regretter.
Pourquoi ça ne marche pas?
Parce qu'il y a quelque chose d'assez endogène. Il y a un entre-soi dans ces administrations, où d'ailleurs, le pouvoir Macron finissant dans 18 mois, en théorie, les directeurs d'administration centrale sont en train de choisir leur point de chute et quasiment leur successeur. Et c'est ça qui paralyse l'action de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de vrai renouvellement. Et le successeur veillera à préserver le point de chute de son prédécesseur et choisira son propre successeur. À un moment donné, il y a quand même besoin d'aérer tout ça.
Des critiques aussi concernant l'exécutif, critiques entendues sur un manque de transparence dans la gestion de la crise. D'ailleurs, qu'est-ce qui a justifié d'ailleurs la fin de la mission d'information des députés qui avait avec elle un suivi des actions de l'État et du gouvernement pour gérer cette crise? Cette mission a été dissoute le 27 janvier après un vote à l'Assemblée. Qu'est-ce qui justifiait la fin de cette mission?
Absolument rien, c'est consternant. C'est consternant, moi j'étais membre de cette mission. Regardez ce qui se passe. Il y avait une mission d'information à l'Assemblée nationale, il y en a une au Sénat.
Pourquoi? Qui existe toujours, elle d'ailleurs.
Parce qu'on a confié les pleins pouvoirs au gouvernement pour réagir vite à la crise sanitaire. Mais la contrepartie du plein pouvoir, c'est le plein contrôle. Le plein contrôle du Parlement, veillez à ce que bon. Et ce gouvernement, cette majorité, Emmanuel Macron, ils ont un vrai problème avec le contrôle parlementaire. Souvenez-vous qu'ils ont éteint la commission d'enquête Benalla alors que le Sénat a pu continuer son travail. Là, ils éteignent sur le Covid. C'était pas une question d'accusation. Vous croyez pas qu'on a des débats à avoir?
Dans le cas de la mission d'information, le gouvernement a expliqué que, enfin, la majorité a expliqué que ça faisait doublon avec les commissions permanentes de l'Assemblée qui font déjà le job de gestion
total.
De suivi.
Pipeau total. La réalité, c'est que les commissions permanentes, elles sont noyées sous les projets de loi existants et que c'est un moyen, en fait, de retirer de la vue de l'actualité les débats que nous devrions avoir. Dans quelle commission est-ce qu'on va discuter de savoir s'il est normal qu'aujourd'hui les étudiants soient confinés alors que les lycéens vont un jour sur deux à l'école? À 17 ans, tu vas un jour sur deux à l'école, à 18 ans, tu restes enfermé chez toi. Et on peut pas débattre de ça, il n'y a pas possibilité de contrôler. Dans quelle commission on va pouvoir discuter du fait que les commerces, vous voyez bien que vous dispersez le débat, l'ouverture des commerces? Je pense que malheureusement, nous serons obligés, sans doute fin février ou courant mars, de subir un nouveau confinement du fait des variants. Mais est-ce qu'on doit refermer les commerces? Je ne le crois pas. Pourquoi? Le 27 novembre dernier, on a rouvert les commerces. Est-ce que ça a fait exploser l'épidémie? Non. Donc on voit bien que c'était pas ça le problème de contamination. Je suis plus favorable à l'idée que les grands centres commerciaux, qui sont des lieux de grand brassage, doivent l'être.
Mais ça vient d'être décidé.
Mais ça se débat, ça.
Mais pour les étudiants,
il n'y a pas de débat.
Pour les étudiants, par exemple, vous êtes, Jean-Christophe Lagarde, vous êtes favorable au fait de leur administrer de l'AstraZeneca comme...
Je pense qu'il devrait être prioritaire.
C'est primordial.
Est-ce que je peux m'expliquer deux secondes là-dessus si je sais bien que le temps tourne, mais bon. Nous avons deux vaccins, Pfizer et Moderna, qui sont efficaces à 94 et 95% pour les personnes de plus de 65 ans, actuellement administrées aux plus de 75. Ce sont de bons vaccins. Je dis d'ailleurs que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui auraient envie que leurs parents ou leurs grands-parents soient vaccinés par un vaccin de moindre efficacité à 70%, voire moins. Donc ils n'ont pas envie qu'on vaccine les anciens avec AstraZeneca.
Parlons des jeunes et des étudiants.
Voilà. Et donc il nous reste AstraZeneca qui va livrer beaucoup de vaccins dans les semaines et dans les mois qui viennent, même si c'est un peu moins que prévu, il y en a beaucoup plus.
Moins efficace pour les plus de 65 ans.
Moins efficace pour les plus de 65 ans, donc on ne leur administre pas. Et là, ce qu'on est en train de faire, On fait le personnel soignant et c'est normal, ce sont les plus exposés, ceux dont on aura le plus besoin avec la nouvelle
vague. Mais pour que les étudiants retrouvent une vie normale.
Mais nous avons un problème de santé publique qui n'est pas le Covid, mais qui est la conséquence du Covid. Nous avons 2 800 000 étudiants qui n'ont pas revu les bancs de la fac depuis le mois de mars dernier.
Et dont certains
qui sont en dépression. 40% de dépression, nous dit-on dans les enquêtes. On a autour de nous des étudiants qui sont en train de craquer. Et on peut pas bousiller leur jeunesse en les rendant dépressifs, avoir des tentatives de suicide, alors qu'on a un instrument, l'AstraZeneca, qui permet de réduire la contamination, disent les premières études, d'au moins 60%. Les plus jeunes sont les moins vulnérables, ceux qui sont le moins en danger, ce sont ceux qui sont le plus confinés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le vaccin, c'est un instrument de libération. Libérons nos jeunes. Rendons-le au moins le dernier semestre d'études normal. Et donc, c'est eux, de mon point de vue, qui doivent être prioritaires.
Ils sont déjà pénalisés parce qu'ils peuvent plus. Enfin, tous les petits boulots qui étaient à leur portée ne le sont plus.
Socialement et psychologiquement. Au niveau du décrochage, ce qui est en train de se passer est dramatique. Il est normal qu'on protège nos anciens, mais on doit arrêter d'ignorer nos gamins.
Ça, c'est pour la stratégie. Un mot sur les vaccins. Ce mois de février risque d'être le moins efficace, avec des retards de livraison, Pfizer notamment. Et puis pour Zeneca, l'Europe lui met un peu la pression pour que ses premiers vaccins n'aillent pas, comme ça semble s'acheminer, en priorité pour les Britanniques. Est-ce que nous sommes condamnés en France à dépendre des préférences des fabricants ? Est-ce que nous aurions pu faire autrement?
J'ai été candidat aux élections européennes en 2019, j'ai été le seul à dire que 70% de nos médicaments provenaient d'Asie et que c'était déraisonnable si un jour une crise, je ne pensais pas à l'épidémie, je pensais à une crise stratégique, militaire, etc. Bon. Oui, il faut reconquérir nos souverainetés. L'Europe est un instrument pour reconquérir nos souverainetés. Simplement, là, il faut aller au bout de ce qu'a fait l'Union européenne. Elle a signé un contrat avec AstraZeneca qui, manifestement, a signé un contrat...
qui n'est pas respecté, enfin.
Mais qui ne pouvait pas respecter. Ils ont signé deux contrats en même temps. Ils ont signé avec Boris Johnson en disant que les deux usines en Grande-Bretagne ne serviraient que la Grande-Bretagne. Ils ont signé avec l'Europe pour dire que les deux usines qui sont en Grande-Bretagne serviraient aussi l'Europe. Donc ils sont coincés.
Ils ont touché de l'argent.
Et donc c'est un rapport de force que nous devons engager avec AstraZeneca, bien sûr. Mais aussi avec Boris Johnson. Parce que, pardon, ce monsieur qui vient de sortir de l'Union Européenne, qui veut qu'il reste des flux libres, entre lui et nous, et qui souhaiterait que la finance londonienne puisse s'installer en Europe, si on n'a pas de vaccin, monsieur Johnson, en tout cas si je dirigeais, je dirais, vos financiers, ils vont attendre un peu. Hein.
Vous êtes favorable au passeport vaccinal ?
Mais c'est moi qui en ai fait la proposition. Et pour une raison très simple, c'est que le vaccin, c'est l'instrument qui libère. Alors, on ne peut pas le mettre en place aujourd'hui, puisque les vaccins ne sont pas disponibles. Mais dès lors que les vaccins seront disponibles pour l'ensemble de la population, on ne va quand même pas expliquer à 25 millions de Français qui ne peuvent plus aller au théâtre, au cinéma, au restaurant, au sport, alors qu'ils seront vaccinés et donc protégés, et sans doute d'ailleurs plus contaminants. C'est ce que semblent dire toutes les études, même si c'est pas encore abouti. Donc évidemment, et je regrette que le gouvernement ait balayé ça d'un revers de la main, c'est l'Europe qui est en train de le faire et le gouvernement français en retard une fois de plus. Pourquoi je le regrette ? C'est parce que c'est maintenant qu'on vaccine les gens, c'est maintenant qu'on pourrait se préparer à ce passeport. C'est sans doute au printemps, au début de l'été prochain, on peut rendre une vie normale à des millions de Français. D'ailleurs, j'aimerais savoir quel responsable politique va dire à 25 ou 30 millions de Français, vous êtes vaccinés mais vous continuez à être confinés.
Il nous reste assez peu de temps pour parler des autres dossiers, notamment le séparatisme, en tout cas la loi pour le respect des principes républicains, avec sa vigie contre la haine en ligne, avec cette vigilance autour de la formation des imams et des lieux de culte, vigilance de la laïcité jusqu'aux délégations de services publics. Est-ce que pour vous le compte y est, ou est-ce qu'il manque encore des chapitres ?
Il y a des choses utiles, mais le compte n'y est pas. Il y a deux choses dans le discours des Mureaux du président de la République, qui étaient très justes d'ailleurs.
Hein, fondateur de ce projet de loi.
Que je saluais. Il traitait des conséquences, la haine en ligne, la nécessité de neutralité des services publics, la protection de nos agents du service public, etc. Tout ça, dans le projet, colle à peu près. Il y a deux choses qui manquent.
Le financement des mosquées.
Attendez, il y a d'abord les causes sociales. Il avait dit pourquoi le séparatisme trouvait un terreau fertile. C'est aussi parce qu'on a laissé des pans entiers de la République où l'éducation n'est pas présente pour permettre de réussir sa vie, où l'inclusion sociale n'est pas possible, où on subit des discriminations qui font que c'est facile de venir raconter à ces gens-là que la France ne veut pas d'eux.
Vous êtes bien placé pour le dire en Seine-Saint-Denis.
Exactement. Et on attaque donc les conséquences sans regarder les causes. Le président de la République, dans son discours, il y avait les deux. Il y avait les causes et les conséquences.
Qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour qu'on oublie une jambe ?
Les causes sont absentes. C'est à eux qu'il faut poser la question. Moi, je le regrette parce que ça nuira à l'efficacité du dispositif.
Ce sont des précautions politiques avant les élections ?
Ben non, parce que maintenant, il veut faire croire qu'il est pour l'égalité des chances, alors qu'en dehors du dédoublement des classes CP et CE1, j'ai rien vu pour l'égalité des chances.
Vous l'aimez vraiment pas,
dans ce quinquennat. Non, je fais le constat de ce qui ne me convient pas. Vous savez, j'ai jamais hésité dans ce quinquennat à dire ce qu'il faisait de bien, et il a fait des choses qui étaient correctes.
On va le rappeler, vous faites partie de la majorité.
Non, pas du tout.
Ah, UDI, vous faites partie de la
majorité. Non, nous sommes un groupe d'opposition déclaré comme tel, et cette année, exceptionnellement, on a voté le budget. Pourquoi? Parce qu'il fallait le plan de relance, mais ça fait pas partie de la majorité.
D'accord.
Et deuxième chose, ce qui manque dans le projet de loi séparatiste, c'est deux choses concernant la religion musulmane. La première, c'est que le CFCM devienne réellement représentatif des musulmans de France. Je suis frappé de voir qu'ils considèrent que ça ne les représente pas. Pourquoi? Parce que quand on vote en fonction du nombre de mètres carrés des mosquées.
Des mosquées et pas au nombre de fidèles.
Et pas au nombre de fidèles. Or, la démocratie, c'est un homme, une voix. Et c'est là où vous laissez des influences étrangères avec de l'argent qui arrive de l'étranger, louer des bâtiments, c'est pas forcément correspondant aux fidèles. La deuxième chose, c'est Dominique de Villepin qui avait cette idée et que je porte depuis, je lui rends hommage.
La création d'une fondation publique.
Une fondation publique qui fasse l'intermédiaire entre celui qui donne et celui qui reçoit. Comme ça, celui qui donne, il commande pas celui qui reçoit.
Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, parti d'opposition à la majorité. Merci d'être venu en parler ce matin.
Merci
sur France Inter. Il est 9h20.